Le Forum de l'aménagement durable, en partenariat avec l'UNAM, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Et bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur Radio Imo et Radio Territoria en direct du Forum de l'aménagement durable avec l'UNAM, l'Union des aménageurs, l'Union nationale des aménageurs. Et j'ai le plaisir d'être avec le ministre délégué au logement, Guillaume Kasbarian. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour monsieur le ministre, ravi de vous recevoir. Je suis également avec François Riossec, le président de l'UNAM. Bonjour, bonjour. Président, l'Union nationale des aménageurs. Et Nicolas Gravit, bonjour, vice-président de l'UNAM, co-président du RNA, le réseau national des aménageurs et directeur des FAGE Aménagement. Alors, François, c'est vous qui allez ouvrir le bal pour accueillir monsieur le ministre.
Tout d'abord, pour le remercier de sa présence et de sa participation à ce salon. Remercier aussi pour vos décisions rapides sur la simplification qui vont permettre au métier de travailler plus facilement et plus rapidement. Et puis vous dire que pour nous, ce salon est important parce qu'il vous a présenté dans ses coursives toutes les méthodologies que nous intégrons pour concevoir le projet, les projets d'aménagement qui sont toujours au service de nos concitoyens pour le logement, les services et l'industrie. C'est une part importante de notre activité pour le réarmement, les réarmements dont on parle. Et puis, nous intégrons bien évidemment d'autres chantiers qui sont l'environnement et l'intégration des fonctions des sols. Donc, nous aurons d'autres occasions de se rencontrer. Et puis, toutes les questions liées à l'énergie, aux mobilités. Je vous disais qu'il faut que l'aménagement intègre toutes les solutions aux différentes crises que nous rencontrons de façon à apporter à la fois les solutions à nos concitoyens et puis une crédibilité, une acceptabilité, puisqu'aujourd'hui nous sommes devant aussi une crise de la non-acceptation des nouveaux projets et les nouvelles nous donnent souvent des exemples difficiles. Donc merci encore.
Ah oui, alors Nicolas, vous vouliez justement réagir. Alors, en tant que co-président du RNA, votre point de vue déjà sur les annonces que monsieur le ministre a faites lors du MIPIM, donc il y a à peu près 15 jours, notamment sur l'aménagement. Alors voilà, une petite réaction et puis peut-être, voilà, vous avez le ministre en face de vous, donc lui dire ce que vous pensez par rapport à ces annonces, notamment sur l'accélération du processus d'aménagement.
Monsieur le ministre, bonjour. Effectivement, co-président du réseau national des aménageurs. Alors, la plénière du RNA se tient aujourd'hui même, en ce moment même. Donc, j'ai été obligé de les quitter pour vous recevoir. Et nous avons eu ce matin une séance assez intéressante sur les valeurs de l'aménagement, quel que soit le type d'opérateur, quel que soit le type de collectivité. Et on est vraiment aujourd'hui au milieu de toutes ces injonctions contradictoires, par rapport aux nouvelles valeurs qu'on attend, les valeurs environnementales, les valeurs sociales, l'équilibre, la mixité, la résilience. Et au milieu de tout ça, aujourd'hui, une crise immobilière, voire une crise sociale qui impacte nos métiers, notre vision à l'horizon 2030-2050. Vos mesures, on les a très bien accueillies. Sur la dizaine de mesures, il y en a 5 ou 6 qui nous concernent directement sur notre métier opérationnel, qui nous permettent d'accélérer les process. Donc vraiment, on vous en remercie très chaleureusement. Il y a dans ces mesures quelques viennes revendications des aménageurs et qui vont être mises en place et on en est très très fiers. Donc, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut en faire d'autres? Je vous exprimais tout à l'heure, effectivement, je vous présentais un projet où nous avons un blocage administratif environnemental qui empêche le développement d'une opération. Typiquement, ce genre de process, on souhaite aujourd'hui les éviter, ne pas effectivement respecter la loi, bien entendu. Mais comment peut-on faire pour accélérer? Est-ce que vous avez prévu un certain nombre de mesures nouvelles?
Alors allez-y, je vous en prie, monsieur le ministre.
Bien, bonjour à toutes et à tous, monsieur le président, monsieur le co-président, mesdames, messieurs. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle édition du Forum de l'aménagement durable. C'était important pour moi d'être ici pour être à votre écoute, rencontrer l'ensemble des acteurs, des entreprises, des collectivités, des énergéticiens, des nouveaux acteurs des systèmes d'information, parce qu'on a ensemble de beaux défis à relever, vous les avez cités tout à l'heure, ceux de l'aménagement du territoire, bien évidemment, avec des problématiques de plus en plus fortes sur le foncier qui nous occupe beaucoup, qui nous préoccupe parfois beaucoup. avec des contraintes spatiales qui sont assez fortes, et avec des enjeux économiques dans les territoires. On parlait tout à l'heure de Poitiers, de Dunkerque, de Fos-sur-Mer, qui sont de plus en plus importants, avec des territoires où il y a de l'industrie qui arrive, il y a des nouveaux EPR qui arrivent, et il y a des besoins de plus en plus forts de logements dans ces territoires-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé Territoires engagés pour le logement, qui sont des territoires où on va vraiment faire du sur-mesure dans des territoires, au cas par cas, pour relancer la production de logements, répondre aux besoins, en prenant en compte une dimension de l'aménagement du territoire qui est très particulière et très forte. On a aussi un défi bien évidemment environnemental et écologique, avec des objectifs ambitieux de décarbonation, de rénovation des bâtiments, de rénovation thermique des logements, sur lesquels, et on l'a vu avec certains des acteurs, on met beaucoup de moyens, y compris publics, pour accompagner et encourager la rénovation. Et donc c'est important de voir les nouvelles technologies qui permettent parfois de gagner beaucoup de temps et beaucoup aussi de budget sur l'enjeu de la rénovation des bâtiments. Et donc c'est important de voir un petit peu ce qui se fait de mieux et d'être aujourd'hui ensemble pour pouvoir être aux côtés des acteurs et encourager les solutions qui sont bonnes pour l'environnement et les objectifs écologiques qu'on se fixe. Puis le troisième défi qui est celui bien sûr de la production de logements dans un contexte de crise que vous avez rappelé qui est très fort. Crise à la fois de la demande ou du fait notamment des taux d'intérêt de ces 18 derniers mois. On a eu un effondrement de la demande d'acquisition. Beaucoup de Français qui ont voulu acheter un appartement, une maison, qui n'ont pas pu le faire parce qu'une simulation à 1%, ce n'est pas la même chose qu'une simulation à 4%. Donc là, il y a des espoirs quand même parce que ça repart. Et puis, bien sûr, le défi de l'offre, avec une offre locative qui est très faible et avec une offre de construction neuve qui a rarement été aussi faible. Et avec aujourd'hui beaucoup de professionnels qui souffrent, des entreprises qui licencient, dans un secteur du bâtiment qui est profondément touché par cette crise du logement. Donc on va essayer de se retrousser les manches et vous avez parlé des mesures de simplification. C'est vrai que vous en aviez quelques-unes qui étaient très attendues du secteur. Je pense à l'extension des permis d'aménager multisites, à l'application des règles d'urbanisme en ZAC, à la possibilité de découper sa zone d'aménagement en tranches pour l'obtention de garanties d'achèvement et au fait de faciliter la densification des lotissements. Donc je crois que c'était des mesures qui étaient fortement attendues du secteur.
Et proposées par l'UNAM d'ailleurs.
Donc je suis très heureux d'avoir pu très rapidement, en quelques semaines, puisque je suis arrivé il y a 8 semaines, aujourd'hui on est 8 semaines, de pouvoir les annoncer et les mettre en œuvre. Donc il y aura une traduction législative et réglementaire. Tout ce qu'on peut passer par le règlement, on va le faire dans les jours et dans les semaines qui viennent. Et sur tout ce qui est législatif, il y a un projet de loi que nos équipes ont préparé, qui sera présenté en Conseil des ministres en mai, qui sera présenté ensuite au Sénat en juin, et qui contiendra notamment, pas que, des mesures de simplification, et donc qui ouvrira ce grand chantier de la simplification. Je pense aussi à la question des délais de recours et au traitement des recours, qui parfois retardent énormément les projets, et sur lesquels, là aussi, on veut aller plus vite. Vous m'avez interrogé sur est-ce qu'on peut aller plus loin ? 1000 fois oui. Et donc, je veux vous dire avec sincérité et avec force que ça n'est qu'un premier paquet de mesures de simplification, mais vous me trouverez toujours à vos côtés pour aller plus loin sur la simplification et l'accélération. Et nous en avons vraiment besoin. Donc je suis très preneur avec mes équipes de vos propositions pour aller plus loin sur le sujet. Il y a eu, je vous l'avais dit, 10 mesures, 5 chantiers de simplification annoncés. C'est qu'une première étape et je compte sur vous pour aller encore plus vite et plus fort sur la deuxième étape.
Alors, monsieur le ministre, donc vous nous confirmez qu'il y aura une loi de logement. Donc, vous l'avez annoncé hier, d'ailleurs, lors de votre audition par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, que vous avez présidée. Vous avez détaillé votre feuille de route avec les 8 leviers principaux. En revanche, vous avez parlé du logement des classes moyennes. Alors, on a une question. Il y a une question qu'on se pose, que les professionnels se posent. Pourquoi exclure la maison individuelle du PTZ, du prêt à taux zéro ? Puisqu'on le sait, on le dit, la maison individuelle, ça permet aux classes moyennes, voilà, c'est un ascenseur social, hein, ça permet de continuer leur parcours résidentiel, de ne plus être locataire, ça permettrait aussi de débloquer le secteur. Alors, est-ce qu'il va y avoir un retour en arrière de la part du gouvernement ?
Alors, vous y allez fort dans la question. Merci pour la question sur le PTZ qui me permet quand même de rappeler, parce qu'à écouter parfois certains, on a l'impression que le PTZ a totalement disparu dans le pays. Non, l'année dernière, il y avait 50 000 PTZ qui avaient été donnés. C'est vrai sur la maison individuelle. Cette année, il y a 40 000 PTZ en 2024 qui vont arriver. C'est vrai que c'est sur du collectif. Donc, il y a eu un choix qui a été fait lors du dernier budget de recentrer le PTZ sur du collectif et effectivement de le déprioriser sur la maison individuelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas pousser la maison individuelle. Ça veut dire que le PTZ n'a pas été retenu comme un élément pour pousser la maison individuelle. Mais le modèle de la maison individuelle est en réalité très ancré dans le rêve et dans la culture des Français. Et je suis le Premier ministre l'a lui aussi dit, notre objectif c'est de faciliter l'accès au crédit, l'accès à l'acquisition pour des Français qui veulent vivre parfois dans du pavillonnaire, dans de la maison individuelle. Et c'est un modèle qui est non seulement respectable, mais que nous souhaitons encourager. Il n'y a pas que le PTZ, il y a d'autres leviers sur lesquels on est en train de bosser. la flexibilisation des règles du HCSF sur l'endettement.
Oui, avec la proposition de loi notamment de Lionel Causse.
Qui va être bientôt étudiée à l'Assemblée.
Alors lui, il permet, enfin, pour expliquer juste, il propose donc deux parlementaires... qui fasse partie de ce Haut Conseil de stabilité financière qui a 8 membres pour l'instant et de se focaliser sur le reste à vivre.
Exactement, parce qu'aujourd'hui vous avez une règle de 35% d'endettement qui aujourd'hui peut parfois empêcher certains ménages d'accéder au crédit parce qu'ils sont bloqués à 35% d'endettement. Donc la question que pose Lionel, et il n'est pas le seul, c'est la flexibilité de cette règle pour permettre plus facilement l'acquisition. On travaille aussi avec les banques sur de nouvelles formes de prêts, notamment des prêts hybrides, sur lesquels on arriverait à débloquer des situations d'acquisition qui sont bloquées. On travaille sur le BRS qu'on veut aussi encourager, ARS solidaire, pour décorréler le prix du foncier du prix du bâti. Quand on regarde le prix de l'immobilier ces 50 dernières années et l'augmentation des salaires des 50 dernières années, on voit qu'il y a un écart de plus en plus important. Donc il faut qu'on engage tout le secteur, y compris le secteur financier, dans une réflexion de long terme sur comment est-ce qu'on facilite l'accès au crédit, parce que le pouvoir d'achat immobilier des Français aujourd'hui n'est pas le même que ceux de leurs parents ou de leurs grands-parents, et qu'étant donné l'évolution des prix structurels de l'immobilier ces dernières années, on a un pouvoir d'achat immobilier qui a été réduit. Donc c'est, si vous voulez, restreindre la question de l'acquisition au PTZ est probablement un peu réducteur. Sur 800 000 transactions, c'était 50 000 l'année dernière, ça sera 40 000 cette année.
C'est déjà ça.
Je sais. Et il y aura des discussions budgétaires lors de l'automne prochain, bien évidemment. Elles ne porteront pas que sur le PTZ. Il y a aussi d'autres dispositifs qu'on essaye d'envisager, notamment sur des mécanismes de donation-succession sur lesquels on travaille actuellement avec les équipes.
Vous voulez supprimer les impôts
Disons que nous réfléchissons à des leviers qui pourraient être efficaces.
Ça permettrait d'avoir un apport pour les Français.
Dans un contexte où vous avez des taux d'intérêt qui sont vachement élevés, le fait de permettre d'avoir un apport un peu plus important et donc de débloquer des situations bancaires qui étaient bloquées, ça peut être intéressant de le faire. Reste à paramétrer les choses et à voir comment est-ce qu'on y arriverait, mais on l'investigue actuellement. Et après, vous savez, la première variable pour débloquer la demande, c'est le taux d'intérêt. On a des signaux plutôt encourageants, puisque les taux d'intérêt se sont stabilisés, voire moins légèrement baissés. Ouais. Et les banques nous disent qu'en février, elles ont fait 30% de crédit en plus qu'en janvier, même si
oui,
ça reste
bon,
un
ça
niveau.
Reste par rapport à il y a deux ans, c'était...
Mais j'ai le souvenir d'avoir fait un plateau avec Mme Bédag il y a quelques jours, qui disait elle-même, ça se retente aujourd'hui. C'est-à-dire que la banque vous a peut-être dit non il y a 6 ou 9 mois parce qu'on était en pleine phase haussière. Aujourd'hui, entre la baisse légère du prix de l'immobilier plus le fait que ça se détend un petit peu au niveau des intérêts,
Bédag est obligé d'avoir ce discours-là vu ce qui se passe dans...
Mais on a tous intérêt, je pense qu'on a tous intérêt à se dire qu'on a besoin de réamorcer la machine et relancer la demande et donc encourager les uns et les autres à refaire des simulations et retenter le coup parce que oui, on veut permettre à un maximum de Français de réaliser leur rêve d'acquisition de leur maison ou de leur appartement.
Et dernière question rapidement pour le statut du bailleur privé, c'est vrai que c'était un statut qui était attendu depuis longtemps. Qu'en est-il ? Est-ce que justement, vous, alors on sait que vous êtes plutôt du côté des propriétaires, vous avez envie de redonner...
Moi, je suis du côté des Français
sur l'offre. Par rapport à certains de vos prédécesseurs, faut donner envie aux Français à nouveau d'investir dans la pierre. Est-ce que des choses vont être mises en place pour ça ? Le propriétaire bailleur, on en a besoin en France, on a besoin de logements. Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui vont être faites, notamment dans cette loi pour le logement ?
Alors, on a besoin d'avoir des gens qui investissent dans l'investissement locatif. Et c'est pour ça que parfois on a pu dire il est du côté du propriétaire. Non, enfin, je suis du côté des Français. La réalité, c'est que plus vous avez des propriétaires rassurés qui investissent sur le logement, plus ça fait d'offres pour les locataires et les candidats à la location. Et donc, en réalité, les deux sont liés. Donc, mon boulot et mon objectif, c'est de rassurer un maximum de propriétaires, à la fois sur la sécurité de l'investissement locatif, mais aussi sur sa rentabilité, son attrait, pour les encourager à le faire, parce qu'on a besoin d'offres locatives pour les locataires in fine. Donc oui, sur le statut du bailleur, on peut l'appeler comme on veut. Il y a une mission qui est en cours, qui est portée par Anaïg Lemeur, qui vise à équilibrer les règles locatives pour encourager un investissement locatif, notamment dans le nu. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a intérêt à pousser de plus en plus de personnes à investir. Donc elle rendra ses conclusions bientôt. Il y aura probablement une réforme fiscale qui sera préconisée à l'issue, qui vise à rendre attractif cet investissement. Et c'est important de le faire parce qu'il y a aussi parfois des alternatives qui peuvent séduire des propriétaires. Je pense notamment à la location touristique. Or, une éviction du marché locatif vers le touristique, c'est moins de logements pour les candidats à la location. Donc ce que nous voulons, c'est renforcer l'attractivité de l'investissement locatif pour les investisseurs, pour qu'ils puissent se dire que oui, ils sont légitimes à y aller, on les encourage, ils sont sécurisés, il n'y a pas de peur à avoir et on va les accompagner au maximum pour rendre attractif cet investissement dans l'offre locative et éviter une éviction du marché au profit notamment du touristique. Ça fait l'objet d'une proposition de loi qui sera examinée, qui a été adoptée à l'Assemblée et qui sera examinée au mois de mai au Sénat. Donc, mille fois oui pour encourager les propriétaires à investir et à louer. On a aussi une question sur les logements vacants, parce que vous savez qu'on a 8% de logements vacants dans notre pays, donc il y a aussi un sujet sur la vacance. Preuve en est qu'il faut rassurer les propriétaires sur l'acte de louer. Ça sera l'objet d'un pacte de confiance que nous allons construire avec les propriétaires pour les encourager dans ce sens. Ce n'est pas qu'une question fiscale, c'est très large, mais c'est un objectif que je confirme. On doit y arriver.
Eh bien, merci beaucoup, monsieur le ministre. On vous libère puisque vous êtes attendu. Merci à vous, merci à vous. François Riossec, merci Nicolas Gravitte.
Merci à vous.
Et on se retrouve très vite sur Radio Immo et Radio Territoria.
Le Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Immo et Radio Territoria.